Bien. Nous arrivons à la conclusion de ces études sur le protestantisme et bien, maintenant la nécessité de faire une sorte de bilan. Et notamment dans une confrontation avec le catholicisme. Et nous allons essayer de faire ce soir cette confrontation entre catholicisme et protestantisme, notamment dans un effort de répondre à un certain nombre d'objections qui sont celles du catholicisme, et dans la mesure où le catholicisme est la religion majoritaire en France, donc un certain nombre d'objections qui sont celles qu'on entend le plus couramment. Alors, la première objection, c'est celle que l'on entend souvent, n'est-ce pas, d'où vient le protestantisme? S'agit-il d'un phénomène qui naît par une génération spontanée, qui est à côté de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église historique, qui a son origine dans les temps apostoliques, qui a 20 siècles d'histoire derrière elle, et voici que soudain apparaît quelque chose de tout à fait nouveau, qui serait donc sans aucune continuité avec l'Église que le Seigneur a suscitée. Alors, la première réponse que l'on peut faire à cette objection d'une génération spontanée, c'est d'abord de dire que, en fait, le mouvement de la Réforme est une tentative de revenir aux origines, de revenir à l'Église primitive. Et bien loin de se situer dans une perspective de rupture avec le christianisme historique, le protestantisme a conscience, bien au contraire, d'avoir renoué avec le véritable et l'authentique christianisme historique. D'abord, parce que l'on constate que l'Église officielle catholique s'est éloignée de l'authentique christianisme tel qu'il nous est dépeint dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, et dans les grandes formulations dogmatiques des premiers siècles de l'Église. Et puis deuxièmement, parce que l'on constate que, à toutes les époques, même les plus sombres, il y a eu, à l'intérieur du christianisme officiel, des mouvements qui ont été authentiquement chrétiens. Et donc, dont on peut dire d'une certaine manière qu'ils ont été protestants. Dans la mesure où le protestantisme est une manière de vivre, ou de rechercher en tout cas, une manière plus authentique de vivre l'Évangile, on constate qu'il y a eu à toutes les époques, dans l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes qui ont vécu un christianisme plus authentique que celui qui était le christianisme de la grande masse de leur temps. Au IIe siècle, on notera par exemple tous les différents mouvements charismatiques qui ont été condamnés par l'Église. On notera également, à partir du IVe siècle, nous sommes en train d'étudier l'histoire de l'Église, tous ces mouvements de ce que l'Église appelait hérétique et qui ont été persécutés dès le départ. D'une manière plus proche de l'époque de la Réforme, on notera l'existence des anabaptistes, l'existence des vaudois, tous gens qui ont aussi été persécutés, comme l'a été le protestantisme après la Réforme. Et par conséquent, il existe une continuité historique que l'on peut remonter de siècle en siècle, qui permet de remonter de siècle en siècle jusqu'à l'Église primitive. La réforme est une recherche de ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme. Et l'on constate également que cette réforme était demandée au XVIe siècle par les éléments les meilleurs de l'Église de ce temps-là. Et quand nous étudierons cette période, nous verrons combien nombreux ont été les pétitions qui ont été signées, écrites par des théologiens, par l'élite de l'Europe du XVIe siècle, et même déjà du XVe, réclamant une réforme de l'Église. Réforme qu'un certain nombre de conciles ont essayé de réaliser sans succès, tout simplement parce que les dirigeants de l'Église ne voulaient pas du tout de cette réforme. Ils ne le voulaient pas parce que l'Église du XVIe siècle était une Église totalement décadente, parce que c'était une Église qui était uniquement préoccupée de mondanité et d'influence temporelle, et qui a par conséquent accueilli par une fin de non-recevoir toutes les demandes de réforme qui ont été formulées et tous les mouvements de réforme intérieurs à l'Église qui se sont manifestés depuis Jean Hus, pratiquement. Alors, à noter également que les réformateurs ne cherchaient pas à créer une Église différente, mais ce qu'ils vous entendaient, c'était réformer l'Église de l'intérieur. Ils n'avaient absolument pas l'intention de se révolter contre l'autorité religieuse, du moins dans un premier temps, encore moins contre l'autorité civile, mais conduire à une prise de conscience d'une réalité évangélique dans laquelle l'Église de leur temps ne vivait plus. Et que c'est parce que justement l'Église officielle qui avait rejeté jusqu'alors toutes les demandes et toutes les tentatives de réforme, a agi de la même manière vis-à-vis des réformateurs, que ces derniers, poussés à bout, ont finalement été amenés à se séparer de l'Église officielle. Maintenant, ce qui motivait ces hommes était une démarche profondément spirituelle. Et l'on a suffisamment reprocher aux différents mouvements issus de la réforme l'austérité protestante. Qu'entendait-on par là? Eh bien, tout simplement, une manière de vivre qui prenait au sérieux les exigences de l'Évangile, qui conduisait à une vie de simplicité et de sainteté, jugée comme excessive, justement, par la grande masse des fidèles catholiques qui, elles, s'accommodaient d'un certain nombre de choses que la Bible, par ailleurs, condamnait. Et ceci est très important à souligner parce que, dans le même temps où l'on condamne l'austérité protestante jusqu'à maintenant dans les milieux catholiques, eh bien, on condamne également la réforme comme étant un mouvement de libertinage, un mouvement qui recherchait un christianisme plus facile face à une Église qui, au contraire, elle, avait des exigences beaucoup trop rigoristes pour les moines défroqués qu'étaient Luther et consorts, et qui, eux, avaient envie, en quelque sorte, de vivre une vie de quasi-débauche. Finalement, ça a toujours été une critique qu'on en a trouvée dans les milieux catholiques. Or, précisément, la contradiction entre les deux critiques montre qu'aucune d'entre elles ne tient, car si il est indiscutablement vrai et historiquement vrai que, d'une part, l'Église catholique du XVIe siècle était une église où le libertinage était, je dirais, sinon la norme, du moins quelque chose de tellement répandu que même les papes s'en affligeaient et avaient été plus ou moins amenés à réagir, bien que timidement et mollement, s'il est historiquement indiscutable que les réformateurs se sont séparés de cette église décadente pour poser justement des exigences extrêmement précises de la part de ceux qui voulaient les suivre, alors on comprend comment cette accusation de moine défroqué qui avait envie de vivre dans le libertinage est finalement quelque chose qui ne tient pas. L'église du XVIe siècle était une église qui n'était plus au service des hommes, mais qui asservissait au contraire les hommes. Une église qui exploitait la crédulité populaire. Et c'est à cause de ces excès même que les réformateurs sont intervenus dans le but de retrouver une authenticité qui n'existait plus. D'autre part, la réforme fut une redécouverte, fut la conséquence de la redécouverte de la Bible qui a marqué le XVIe siècle. Redécouverte de la Bible au travers de ce mouvement qui l'avait précédé, qui était l'humanisme, c'est-à-dire le retour aux sources de la civilisation occidentale, qui devait donner naissance, donner plutôt comme conséquence aussi le mouvement dit de la Renaissance, connaissance artistique, littéraire, etc. Pourquoi ? Parce que, bien, on a pu redécouvrir, d'une part, les sources classiques, gréco-latines, les écrivains gréco-latins, etc., mais également les textes originaux hébreux et grecs de la Bible. Et dans le même temps, une invention nouvelle permettait la diffusion justement de cet esprit nouveau qui était l'humanisme, c'était l'invention d'imprimer. Alors, il est tout à fait intéressant de noter que le premier livre qui avait été imprimé, donc diffusé à une grande échelle, c'était justement la Bible. Donc, diffusion du message de la Bible, approfondissement du message de la Bible, traduction de la Bible qui a été faite par des gens qui ont précédé les réformateurs, comme le Fèvre d'Étaples ou d'autres. Et c'est cette redécouverte de la Bible qui a permis de prendre conscience qu'après nos réformateurs et un grand nombre de gens plus simples, n'est-ce pas, de prendre conscience du fossé qu'il y avait entre l'idéal biblique que l'on redécouvrait au travers du texte inspiré et vulgarisé et ce qui se vivait dans l'Église de leur temps. Donc qui a produit une soif d'autre chose, qui a produit également une conviction de péché intense. Conviction de péché qui a débouché, à cause du message biblique, sur la découverte du salut gratuit qui était en Jésus-Christ. Et en même temps, produisant une sainteté de vie qui était exactement l'opposé du libertinage. On constate également que la réforme est un mouvement qui est né, qui a éclaté en Europe en même temps dans différents endroits, presque je dirais partout à la fois, sans qu'il y ait de concertation des différents foyers de la réforme les uns avec les autres au départ. Ce qui est la marque et la preuve aussi qu'il s'agit là bien des véritables mouvements de l'esprit. La France a été un des principaux foyers de cette explosion de la réforme. D'abord parce que pour une fois, la France était un des pays qui était les plus avancés dans cette soif d'une réforme de l'Église. Et c'est ainsi que on trouve, 100 ans avant Luther, en France déjà un certain Jean Guénon, qui était doyen de l'Université de Paris, et qui écrivait au pape pour lui demander une réforme à l'intérieur de l'Église. Calvin, l'un des principaux artisans de la réforme était un Français. Et la réforme, dans son esprit, a été profondément marquée par l'esprit français qui était celui de Calvin. Lorsque le pape Paul V écrit à Catherine de Médicis pour lui demander de mater l'hérésie, il y a 2550 églises réformées en France. Et quelques années plus tard, il y aura au moins un quart du royaume qui sera passé à la réforme. Et selon les historiens les plus optimistes, il y aurait près de la moitié du royaume de France qui, à l'époque, était touché par la réforme. C'est dire s'il s'en est vraiment fallu de peu que notre pays tout entier bascule dans le camp de la réforme. Alors, qu'est-ce qui a empêché la France de devenir protestante? Car une des objections que l'on entend aussi parfois, c'est celle-ci, l'esprit protestant est incompatible avec l'esprit français. Alors, le fait que la réforme ait été si profondément marquée par l'esprit français en la personne de Calvin et de tout ce qui s'est passé à Genève, parce que Genève est une ville française, eh bien, prouve, s'il en était besoin déjà, que tel n'était pas le cas. Et deuxièmement, le fait que la réforme soit répandue si rapidement et si profondément en France, eh bien, prouve qu'il n'en était rien. Alors, on dira-t-on, mais pourquoi la réforme n'a-t-elle pas percé en France? Eh bien, pour une raison très simple, parce qu'il y a eu persécution. Ce sont les persécutions qui ont bloqué et enrayé le mouvement de la réforme. Et pourquoi y a-t-il eu persécution? Qui a persécuté? Les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques qui étaient obnubilés par l'idée de l'unité du royaume de France. Cette unité qui avait été acquise laborieusement au long du Moyen-Âge et qui était encore fragile. Et l'unité française était conçue par les rois de France essentiellement comme une notion centraliste. C'est Richelieu qui, le premier, avait donné cette impulsion-là, lorsqu'en particulier il avait mis fin à l'autonomie des villes libre qui avait existé tout au long du Moyen-Âge et qui s'était aussi traduit dans le même mouvement, ça, par la destruction des places fortes protestantes, dont la plus célèbre est celle de La Rochelle, qui, bien loin d'être une menace, comme le disent les historiens, même laïcs aujourd'hui, pour l'unité de la France, n'est-ce pas, n'avait absolument pas du tout l'intention de se révolter et de mettre en péril cette unité de la France. Là, nous sommes en plein dans ces espèces d'idées reçues qui circulent même chez les historiens parfois les plus sérieux, mais qui n'ont jamais pensé à les remettre en question sérieusement, parce que ça fait partie du dogme, pas de l'histoire officielle telle qu'elle est enseignée en France depuis toujours, depuis des générations. Or, le centralisme a conduit justement les pouvoirs royaux à voir dans l'apparition de la réforme religieuse réformée, protestante, n'est-ce pas, une menace pour l'unité du royaume. Et c'est au nom de d'une certaine idée d'unité politique du pays que ces mêmes pouvoirs ont persécuté le protestantisme en France. En fait, il nous faut remonter plus loin. Et sans acrimonie, sans faire de l'anticatholicisme primaire, mais tout simplement par pur souci de vérité et d'objectivité historique, il nous faut reconnaître que les pouvoirs politiques en France ont tout simplement été manipulés par l'Église catholique. L'Église catholique qui a insufflé justement une certaine idée de la France, comme le disait De Gaulle, Richelieu n'était-il pas un homme d'Église? Et cette certaine idée de l'unité française n'était finalement que le décalque politique de l'unité centraliste de l'Église catholique. Et il est tout à fait intéressant de constater que jusqu'à nos jours, la maladie première de la France, c'est le centralisme. Et un centralisme qui, dans la France républicaine et laïque du XXe siècle, on pourrait même dire aujourd'hui socialiste, n'est finalement que le décalque du centralisme romain. Tant justement fut grande l'influence de l'Église catholique sur la pensée politique de notre pays. Et c'est pourquoi, par exemple, on parle actuellement tant de décentralisation et qu'il n'existe pas de décentralisation réelle. Elle n'existe pas tout simplement parce que c'est contraire à la conception qui se trouve dans le subconscient de toute la classe politique française, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, marquée justement par une évolution qui a commencé avec Richelieu, qui s'est ensuite poursuivie avec Napoléon. Napoléon qui, bien que très mauvais catholique, était tout de même profondément marqué justement par le centralisme romain et qui ne concevait pas l'unité du pays, qui ne concevait pas l'exercice du pouvoir dans d'autres catégories mentales et dans d'autres termes que celui justement du modèle de l'Église catholique romaine. Même si c'était inconscient. Et nos modernes socialistes, anticléricaux, tout ce qui est catholicisme, finalement, dans leur inconscient, eh bien, continuent à être marqués par ce modèle du centralisme romain, dans leur conception de l'unité du pays. Alors, voyez-vous jusqu'où ça va et qu'est-ce que cela implique, en fin de compte. En fait, l'Église catholique s'était ressaisie à cette période-là, et c'est l'époque où apparaissent un certain nombre de pactes fanatiques, tels Paul III, Paul IV, Paul V, par exemple celui auquel je fais allusion tout à l'heure, qui félicitera Catherine de Médicis pour la Saint-Barthélemy, qui la félicitera d'avoir exterminé les protestants. Et c'est l'époque aussi où, pour lutter contre l'hérésie, comme ils disent, les catholiques créent un instrument redoutable, la Compagnie de Jésus, autrement dit les jésuites. Les jésuites, dont le but essentiel, justement, est de lutter contre le protestantisme, qui, pour cela, vont utiliser à la fois l'intrigue, la ruse et la violence, qui vont éduquer et exercer une influence sur les esprits, et notamment sur les esprits des grands, des principaux dirigeants de notre pays. La France n'est-elle pas la fille aînée de l'Église? Et au moment où Henri IV promulgue l'édit de Nantes, il se fait vertement admonester par le pape, qui lui rappelle cette fonction, n'est-ce pas, de fille aînée de l'Église, qui est celle de la France, et qu'il est absolument intolérable que dans ce pays, eh bien, le catholicisme soit réduit finalement à n'être qu'une religion parmi d'autres. Et Pie VII, beaucoup plus tard, sous Napoléon, reprochera à ce dernier aussi d'avoir accordé le statut d'égalité des droits aux autres religions, y compris à la perfidie judaïque. Comment la fille aînée de l'Église peut-elle oublier à ce point son rang de fille aînée de l'Église jusqu'à reconnaître à l'erreur le même statut et les mêmes droits que la vérité? C'est inacceptable, c'est intolérable. Et jusqu'en 1910, nous trouvons des évêques français pour réclamer la peine de mort pour les hérétiques. En 1910, c'est pas si loin de nous. Les évêques écrivaient encore à ce moment-là dans ce sens-là. Alors, les jésuites vont avoir une influence déterminante sur la pensée justement des dirigeants français. D'abord parce que la plupart des confesseurs, des rois, des ministres, des grands ne seront autres que les jésuites. Et ils vont devenir les directeurs de conscience de ceux qui dirigent notre pays. Alors très vite, les bûchers s'allument, à droite, à gauche, les prisons, les couvents, les enlèvements d'enfants, les les expulsions, les dragonnades, etc. Et, eh bien, on voit tout au long des années le déclin. En 1562, il restait dans la France tout entière, alors que quelques dizaines d'années plus tôt, il y avait 2550 églises réformées dans notre pays. En 1562, il ne restait plus que 950. En 1598, 760. Et sous Napoléon, quand ce dernier promulgue le Concordat, en 1802, il ne reste plus que 171. Vous voyez la courbe descendante. Ceci n'est pas dû à un désintérêt de la population française pour le protestantisme, mais tout simplement à la persécution qui a résulté d'un pouvoir politique manipulé par l'Église catholique. Il est à remarquer que les masses populaires françaises n'ont pas pris part à ce mouvement, n'est-ce pas, de révolte contre la réforme. Et les cas où des protestants ont été aidés, protégés, sauvés par des catholiques, du peuple, issus du peuple, sont extrêmement nombreux. Ce qui montre bien qu'il s'agissait là de quelque chose qui était vraiment extérieur aux vœux profonds de la population française, mais qui était imposé justement par une puissance extérieure, qui était celle justement de l'Église catholique. Deuxième point qu'il nous faut envisager maintenant, c'est celui de la méthode protestante. Aujourd'hui, plus jamais, dans notre période d'œcuménisme, on entend souvent dire ceci, après tout, nous avons le même bon Dieu, c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre le catholicisme et le protestantisme. En fait, il s'agit là d'une vision superficielle des choses, d'autant que certains prétendent que le catholicisme, lui aussi, est devenu maintenant plus évangélique, et que maintenant, le temps est peut-être venu de fermer la parenthèse de la réforme. Le protestantisme a-t-il encore sa raison d'être aujourd'hui, après Vatican II en particulier? En fait, je crois qu'il y a là deux questions qu'il faut nous poser. La première question est celle-ci, le christianisme est-il vrai? Et si le christianisme est vrai, quel est le vrai christianisme? Finalement, c'est la question que se sont posées les réformateurs. Et c'est la question qui fonde le protestantisme. Les réformateurs qui ont refusé simplement d'entrer dans une réalité socio-culturelle de leur temps, où l'on était chrétien tout simplement parce que l'on était né dans une société qui était chrétienne, mais ils se sont posé la question de la vérité du christianisme. Et en même temps, quel était le véritable christianisme? Et comment était-il possible de vivre authentiquement ce véritable christianisme? Et c'est alors que les réformateurs ont découvert cette réalité, que l'évangile Jésus-Christ était libérateur. Libérateur de toutes les servitudes, de tous les esclavages, et de toutes les autres autorités autres que Jésus-Christ lui-même. Et que dans son attachement à Jésus-Christ, l'homme découvrait toutes les libertés. Et c'est là que une nouvelle compréhension d'évangile a été donnée. Il y avait eu deux époques qui avaient été marquées par deux conceptions différentes du christianisme, si on est... Laisse de côté l'époque d'Église primitive. L'époque qui commence à partir du IVe siècle, que nous étudions l'histoire de l'Église, et qui est l'époque des grands conciles œcuméniques, où le christianisme avait été réduit à une doctrine. Ce qui intéressait les hommes du IVe siècle et des siècles qui ont suivi, c'était l'exactitude de la doctrine. On était chrétien dans la mesure où l'on professait une doctrine exacte. D'où l'importance des formulations dogmatiques qui vont être les œuvres des grands conciles. Et le danger qui menaçait pour cette époque-là le chrétien, c'était essentiellement l'hérésie, c'est-à-dire de professer une doctrine qui n'était pas exacte. Puis naît un tournant, justement, avec saint Augustin. Saint Augustin est un homme particulièrement ambigu, dans ce sens que il avait sur un certain nombre de points des idées extrêmement justes, nous verrons cela en histoire de l'Église, notamment justement sur la question fondamentale qui sera celle de la réforme, celle de la justification par la foi. N'oublions pas que Luther était un moine augustinien et que, précisément, c'est aussi au travers des œuvres de saint Augustin que Luther va redécouvrir l'Épître aux Romains et par l'intermédiaire de l'Épître aux Romains, la justification par la foi. Mais à côté de cela, sur d'autres points, Augustin avait des idées tout à fait erronées. Et l'on peut dire qu'Augustin est à ce niveau-là le père du catholicisme moderne. Car, esprit latin, Augustin avait un esprit juridique. Et pour lui, le christianisme a été réduit à un système juridique. Une institution légale qui s'appelait l'Église, qui était la gardienne de l'orthodoxie. Par conséquent, on était chrétien dans la mesure où l'on était dans la communion de ce système juridique-là. Et le danger qu'il fallait éviter avant tout n'était plus, comme à l'époque précédente chez les Grecs, le danger de l'hérésie, mais c'était le danger de schisme, c'est le fait d'être séparé de la communion de l'Église. La Réforme, elle, s'est rendue compte qu'aucune de ces deux réalités-là n'était la bonne, que le christianisme n'était pas une doctrine, que le christianisme n'était pas un système juridique érigé en Église, mais que le christianisme, c'était d'abord une personne, c'était d'abord Jésus-Christ. Personne vivante, de laquelle on ne pouvait s'approcher qu'au travers de la Bible, et que la Bible était le témoignage qui nous permettait de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, de la part de la Réforme, une critique de l'institution ecclésiale très forte, voire même excessive. Et c'est là que les réformés ont été amenés à avoir vis-à-vis de l'institution ecclésiastique en soi une attitude négative. Cette attitude s'est manifestée essentiellement par, d'abord, quelque chose de tout à fait positif, savoir une redécouverte que l'Église, ce n'était pas l'institution, que l'Église, ce n'était pas le clergé, que l'Église, c'était la communion des croyants qui se rassemblaient d'abord en un certain lieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la Réforme a redécouvert la dimension congrégationaliste de l'Église. C'est-à-dire que l'Église existe là, d'abord, où Jésus-Christ est invoqué. Par conséquent, et ça a été un des points fondamentaux de l'ecclésiologie réformée, aucune Église locale ne peut avoir une prééminence et une autorité sur une autre. D'où la prétention de l'Église romaine d'avoir autorité sur toutes les autres églises est intenable. Ça ne veut pas dire que les communautés locales sont sans lien les unes avec les autres. Elles doivent avoir de tels liens, car l'Église, c'est non seulement le lieu où s'assemblent dans un endroit donné ceux qui invoquent ensemble Jésus-Christ, mais c'est aussi la communion spirituelle de toutes les communautés entre elles. Et nous allons voir comment la réforme a concrétisé ces liens. Donc il fallait concrétiser justement cette communion entre les différentes communautés entre elles. Mais cette concrétisation devait se faire sur la base de la plus totale et de la plus parfaite égalité des communautés entre elles. Même si il pouvait y avoir, dans le domaine des ministères, une certaine hiérarchie, type spirituel, sur le plan des communautés, aucune n'avait prééminence sur une autre. Aucune église nationale non plus ne pouvait avoir prééminence sur une autre. Et la communion se faisait encore une fois sur la base de la plus parfaite égalité des communautés centrales. Ça me paraît profondément juste, ça me paraît profondément biblique. Par contre, un deuxième point sur lequel il était possible de discuter, il est possible de discuter, qui est certainement beaucoup moins biblique, c'est d'abord sur le fait que le protestantisme, à cause des excès de l'Église catholique dans ce domaine, est devenu très vite allergique à toute forme de clergé. Bon, ça c'est légitime. C'est vrai, comme ont constaté les réformateurs, que nulle part dans la Bible nous ne trouvons l'existence d'un clergé, c'est-à-dire l'existence d'une catégorie supérieure de chrétiens qui monopoliserait en quelque sorte la direction, les pouvoirs dans l'Église. Pouvoir spirituel, pouvoir administratif, pouvoir de direction, etc. Mais cette défiance à l'endroit d'un clergé a conduit les réformateurs à une critique beaucoup trop excessive, et c'est un petit peu ce que nous voyons pendant le séminaire pastoral, de la notion même de ministère. Et c'est la notion même de ministère qui est mise en question, justement, dans la plupart des églises issues de la Réforme. Et comme cela a été noté au cours du séminaire, ce n'est qu'avec le mouvement de Pentecôte, le réveil de Pentecôte au début de notre siècle, que le ministère, en tant qu'institution divine, a véritablement été redécouvert au sein des églises de la Réforme. Et là, il y a une grave lacune par rapport à l'Église catholique. Et l'Église catholique est fondée de dire, sur ce point-là, les églises de la Réforme ne sont pas bibliques. Et là, c'est indiscutable. De fait, sur ce point-là, la plupart des églises de la Réforme ne sont pas bibliques. Car, même si l'Église catholique a poussé trop loin, même si l'Église catholique a institutionné la chose jusqu'à en faire un clergé à l'exemple de ce qui se passe dans les religions païennes et ce qui se passait dans l'Ancien Testament, il est indiscutable que, publiquement, il y a une élection. Il y a une mise à part pour un service d'un certain nombre d'hommes. Ce qui ne veut pas dire que ces derniers ont des privilèges particuliers sur le reste des fidèles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont une catégorie supérieure. Cela signifie simplement qu'ils ont été choisis par Dieu pour exercer un certain nombre de responsabilités et un certain nombre de charges pour lesquelles le Seigneur les a équipés. Et c'est pourquoi, justement, quand nous discutons avec les catholiques, il faut être extrêmement prudent sur cette question, justement, qui est un des points fondamentaux de la Réforme, ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants. Qu'est-ce que c'est le sacerdoce universel? C'était justement cette idée selon laquelle il n'existe pas de clergé, une catégorie spéciale de prêtres dans l'Église de Jésus-Christ, mais que tous les croyants, du plus petit jusqu'au plus grand, sont un sacerdoce royal, comme le dit l'apôtre Pierre, une nation sainte. Bon, ceci est indiscutable. D'ailleurs, le catholicisme ne le conteste pas non plus. Mais c'est l'interprétation que l'on donne de cette notion du sacerdoce universel qui fait problème. Qu'il existe, qu'il n'existe pas, comme le disent les réformés, de sacerdoce particulier dans l'Église de Jésus-Christ, ça c'est indiscutable. Il y a un seul prêtre, Jésus-Christ. Et aucun homme, quelque grand que soit son ministère, ni le plus grand des apôtres, ni le plus grand des prophètes, ni le plus grand des évangélistes, ne peut être qualifié de prêtre. Il n'a absolument pas le moindre pouvoir d'exercer la moindre fonction sacerdotale. Dans le sens donc, d'un sacrifice particulier rendu à Jésus-Christ. Par contre, que tous les fidèles soient d'une certaine manière prêtres de la Nouvelle Alliance, offrant à Dieu leur propre corps, en sacrifice vivant et saint, comme le dit l'apôtre Paul, offrant au Seigneur des sacrifices de bonne odeur que sont les prières qui font monter au Seigneur, l'adoration, offrant au Seigneur leur consécration, leur bien, bref, leur être tout entier. Mais encore une fois, ceci est le fait de tous les croyants, qu'ils soient appelés à un ministère selon Éphésiens 4 ou pas. Mais par contre, ce que la réforme n'a pas vu, c'était justement l'existence de ce ministère selon Éphésiens 4. Et la structure des églises issues de la réforme, à peu près toutes, n'est-ce pas, fait l'impasse totale sur cette question-là. Maintenant, ceci, évidemment, s'explique dans le contexte du XVIe siècle par une réaction anticatholique dans ce domaine, parce que l'Église catholique avait effectivement poussé trop loin. L'Église était devenue l'institution qui confisquait à son profit l'honneur et la gloire qui étaient dus à Jésus-Christ. Et là, l'une des affirmations de la réforme essentielle était celle-ci, « Soli Deo Gloria », à Dieu seul soit la gloire. C'était une manière de protester contre la place excessive prise par l'ecclésiologie dans la théologie catholique. C'est ainsi que, par exemple, encore aujourd'hui, pour savoir ce que croit un catholique, eh bien, il faut consulter quoi ? Qu'est-ce que la foi catholique ? Où peut-on trouver ce qu'est la foi catholique? Eh bien, ce que croit le catholicisme, c'est l'Église qui le fixe. Et c'est elle seule qui fixe ce qu'un catholique doit croire. Par conséquent, en lisant le Nouveau Testament, nous ne saurons pas ce qu'un catholique croit. Nous saurons une partie peut-être de ce qu'il croit. Mais si nous voulons savoir ce que croit un catholique, il nous faut recourir au dernier symbole, au dernier texte écrit de l'Église à ce sujet. À l'heure actuelle, ce sont les textes de Vatican II. Avant Vatican II, il y en avait d'autres. Et rien ne nous dit que dans quelques années, il n'y aura pas de nouvelles formulations qui expliciteront ce qu'est la foi catholique, c'est-à-dire ce qu'un catholique doit croire. Si on fait la même demande en ce qui concerne un protestant, qu'est-ce que croit un protestant ? Où trouver des textes qui seront le résumé de la foi protestante ? Eh bien, là, le protestant peut dire le Nouveau Testament. Ça, un catholique ne pourra jamais dire. Jamais. Mais si on nous demande que croyez-vous ? Eh bien, on pourra dire, prenez le Nouveau Testament, lisez, vous aurez un aperçu de ce que nous croyons. Pour le catholicisme, ce n'est pas au Nouveau Testament qu'il faut recourir pour cela. Mais le Nouveau Testament n'existe en tant que norme de foi pour le catholicisme que dans la mesure où l'Église catholique en garantit l'origine divine. C'est parce que l'Église affirme que le Nouveau Testament est un texte inspiré, mais il ne l'est pas en lui-même. Et c'est ça, justement, le grand problème. L'Église est la gardienne et la maîtresse de la parole révélée. L'Église confère au Nouveau Testament son autorité, mais parce qu'elle existe en tant que telle. À la limite, je croirais à l'Église même s'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Et où ça va loin comme affirmation. Alors, comment peut-on croire que l'Église est véritablement instaurée par Jésus-Christ ? Parce qu'elle a son histoire, parce qu'elle a son passé, parce qu'elle a son rayonnement spirituel aujourd'hui, parce qu'elle a ses institutions, parce qu'elle a ses dogmes, parce qu'elle a ses cérémonies, parce qu'elle a ses lois, et dit le catholicisme, au travers de toutes ces choses, l'observateur impartial constate qu'il y a là un miracle, il y a là une manifeste preuve de l'intervention divine et de l'origine divine de l'Église. Donc c'est l'Église elle-même qui est un fait en soi. Et Jésus-Christ n'existe qu'en fonction de l'Église. Et nous pouvons dire que ce n'est pas Jésus-Christ qui est premier. Dans l'Église catholique, c'est l'Église. À la limite, l'Église prend la place de Jésus-Christ. Et les réformateurs ont fort bien vu ça. Et leur critique de l'Église, excessive comme nous l'avons vu, était tout simplement, n'avait d'autre but que de rendre à Jésus-Christ la première place qui avait été finalement usurpée par l'Église, qui était devenue un écran entre Jésus-Christ et les hommes. Qui faisait que les hommes de leur temps n'avaient aucune expérience de Jésus-Christ, ils n'avaient qu'une expérience de l'Église. Or, il fallait que l'Église s'efface pour que Jésus-Christ apparaisse. Et Jésus-Christ, pour apparaître, devait le faire au travers de la Bible, d'où la nécessité de remettre la Bible au premier plan. Non plus comme sous-produit de l'Église, si j'ose dire, mais au contraire, comme réalité qui fondait l'Église. C'était la démarche absolument opposée. Le catholicisme dit d'abord l'Église, ensuite la Bible, et enfin Jésus-Christ. Le protestantisme dit d'abord la Bible, et ensuite l'Église, dans la mesure où cette Église humblement va s'efforcer de reproduire l'exemple que le Nouveau Testament, l'image que le Nouveau Testament donne. Donc ici, nous sommes dans une démarche d'esprit totalement différente. Et c'est pourquoi cette critique reste vraie aujourd'hui, malgré Vatican II. Malgré toute l'évolution, même positive, qui a eu lieu dans l'Église catholique, n'est-ce pas ? Ce qui est le point essentiel de divergence entre les Églises issues de la réforme et le catholicisme est là. Et je crois que si on demandait que la différence essentielle entre les catholiques et les protestants, mais je ne dirais pas c'est l'adoration mariale, c'est le culte des saints, etc. Mais c'est cette réalité-là. C'est que pour le catholique, l'Église est première, et pour les protestants, Jésus-Christ est premier. Alors les catholiques vont réagir en disant, mais c'est pas vrai, Jésus-Christ aussi est premier. Mais Jésus-Christ n'est connu, n'est-ce pas, que dans la mesure où on passe par l'intermédiaire obligé de l'Église. Tandis que le protestant dit, il y a la Bible. Par conséquent, on peut connaître directement Jésus-Christ. Bien sûr, la connaissance de Jésus-Christ nous renverra dans l'Église, parce qu'il n'y a pas de foi qui puisse être vécue en Jésus-Christ, qui puisse être vécue en dehors de l'Église. Mais l'Église n'est pas, la dépositaire et la maîtresse de ce qui concerne Jésus-Christ. Elle n'en est que l'un des servantes, et c'est là toute la différence. Alors, il nous reste un autre point à voir, si vous voulez. C'est le christianisme protestant, je l'appelle. Comme le disait le doyen Carbonnier, être protestant, c'est une autre manière d'être chrétien. C'est une manière que le protestant veut plus authentique et plus vrai d'être chrétien. Donc, une manière de revenir au-delà d'un salut qui est un salut juridique et magique chez les catholiques, et en même temps un salut toujours incertain, un salut déjà donné ici-bas, et qui nous est donné directement par une rencontre directe avec Jésus-Christ. Alors évidemment, la grande critique que fait le catholicisme, c'est la présence de ce qu'il appelle les sectes protestantes. Oui, mais l'Église catholique est une le protestantisme est divisé. Autant de protestants, autant d'églises. Il faut admettre très humblement qu'il y a effectivement dans le protestantisme une tentative, une tendance à l'émiettement, une vision de l'Église trop fragmentaire à cause justement de ce que nous venons de définir là, c'est-à-dire cette critique de l'Église pour permettre à Jésus-Christ de paraître. Autant le catholicisme a surestimé l'Église, autant peut-être que le protestantisme a eu tendance à atrophier la notion d'Église. Et il y a maintenant tout un travail qui s'impose d'ecclésiologie. L'ecclésiologie est peut-être la grande tâche du protestantisme moderne, du protestantisme évangélique en particulier. Mais ceci dit, il existe malgré tout une unité profonde au travers de la diversité du protestantisme, une unité profonde sur ce qui devrait en tout cas être essentiel, c'est-à-dire justement Jésus-Christ connu, encore une fois, au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Et toutes les autres différences, finalement, sont basées sur la manière d'appréhender eh bien, cette réalité sur laquelle, finalement, tout le monde est d'accord. Un réformé avec un pentecôtiste, un libéral avec un bartien sont d'accord pour dire ce qui est premier, c'est Jésus-Christ, connu au travers de la vie, au travers de la parole de Dieu. Et c'est à partir de là que nous pouvons parler, justement, de ce qui est le ciment de l'unité protestante. Quelques mots, si vous voulez, maintenant, avant de terminer, sur la réalité du protestantisme en France. D'abord, sur l'organisation de l'Église protestante, des Églises protestantes, plus exactement. Bon, nous avons vu que l'Église a été conçue au départ comme une réalité congrégationaliste. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis un milieu d'eux. Donc, réalité à la base, vécue à la base, mais refus du clergé, donc refus des ministères. Je crois qu'il faut parler du refus du ministère. Les églises, finalement, n'ont qu'un seul ministère dans le protestantisme réformé, les anciens. Et ce sont les anciens qui choisissent les pasteurs, qui n'est finalement qu'un ancien, auquel est dévolue la tâche d'abord d'étudier et ensuite d'enseigner le troupeau. Puisque la parole de Dieu est centrale pour les réformer, il faut que des hommes enseignent la parole de Dieu. Et le pasteur est conçu uniquement comme un enseignant. Peu, si vous voulez, comme les scribes dans le judaïsme post-exilique. Mais son appel, s'il est conçu dans l'absolu comme un résultat d'un appel de Dieu, est le résultat essentiellement du choix justement des anciens. Les églises, par exemple, au moment où un pasteur est choisi, il peut se présenter devant l'église et peut faire des objections aux anciens, etc. Et à ce moment-là, il devient le pasteur. Bon. Plusieurs églises entre elles, dans une région géographique limitée, forment un consistoire. Lequel consistoire se rassemble assez fréquemment dans une représentation qui est celle des pasteurs et des laïcs. Plusieurs consistoires entre eux forment un synode régional. Et à ce moment-là, nous avons une région ecclésiastique. Et enfin, tous les synodes régionaux rassemblés forment un synode national. Chaque synode est composé à parts égales, moitié de pasteurs et moitié de laïcs. et il est présidé par un pasteur, c'est toujours un pasteur qui préside le synode, et le pasteur élu par le synode porte alors le nom de modérateur. Il est assisté dans sa tâche par un laïc qui, lui, porte le nom de vice-modérateur. Alors, il y a des règles juridiques, vous savez, assez précises. C'est ce qu'on appelle le système presbytérien synodal. En fait, à la base de ce système, il y a la démocratie. Les protestants ont été les premiers à avoir l'idéal démocratique, si j'ose dire, avec la vision du fédéralisme qui existait déjà au Moyen-Âge dans la société civile de l'époque. Et les réformés ont été l'héritier de ce système. Donc, qui est tout à fait l'opposé du centralisme. Et c'est pour ça qu'il y a, entre l'esprit protestant et l'esprit catholique, une antinomie fondamentale. Le catholique raisonne en termes de centralisme pyramidal, tandis que le protestant raisonne en termes de démocratie fédéraliste. Alors, lequel de ces deux systèmes est le plus coquin ? Sur le plan politique, la vision démocratique est tout à fait bonne. Moi, c'est ce qu'on peut penser, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais sur le plan spirituel, si effectivement il existe un certain respect de la base, une sorte de congrégationalisme, eh bien, la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple, est aux antipodes de la pensée de Dieu. Jamais Dieu n'a conçu que son peuple n'avait pour autre autorité que lui-même. Que le peuple était un peuple qui s'autodirigeait, comme le concevront par la suite, sous l'influence de l'esprit protestant d'ailleurs, les révolutionnaires de 80. Et je pourrais montrer la part importante, compris les protestants, dans la révolution de 89, notamment quant à la théorie justement de la démocratie qu'a eu pour principal agent Jean-Jacques Rousseau, lequel était un réformé. Il y a une filiation directe. Et par conséquent, nos sociétés modernes, y compris en France, sont basées justement sur les idées et sur l'esprit protestant. Ce qui a du mal à coexister justement avec la vision centraliste. Ce qui fait que, comme disait Pierre Fitch, il y a le mal français dans notre pays, entre l'idéal démocratique d'une part, et puis le centralisme romain, pyramidal, dont les civilisations françaises n'ont jamais réussi à se débarrasser de nous. Enfin, ça c'est un autre domaine, ici on dira. En tout cas, si sur le plan des institutions, on peut penser que c'est un système qui est beaucoup préférable au système centraliste, et encore une fois c'est mon cas, sur le plan biblique et sur le plan spirituel, eh bien, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu était conduit et dirigé par lui-même. L'Éternel était votre roi. Et comment s'exerce cette souveraineté de Dieu ? D'abord, bien sûr, par la parole, dans la mesure où l'on respecte ce que Dieu dit, et puis deuxièmement, par ceux que Dieu choisit pour être les interprètes de sa parole. Et là, nous revenons à cette notion fondamentale du ministère, que jusqu'à ce jour, les églises issues de la Réforme, toutes, que ce soit les églises réformées, que ce soit les églises luthériennes, que ce soit les églises évangéliques, baptistes ou autres, n'est-ce pas, toutes ces églises-là, mises à part justement dans les milieux pentecôtistes et encore, n'est-ce pas, cette raison embryonnaire, bien toutes ces églises-là, ils continueraient et ignorent. Et là, c'est une des graves lacunes, justement, qui est celle des églises de la Réforme. Voilà, si vous voulez, comment on peut définir très rapidement justement cette situation des églises issues de la Réforme aujourd'hui face au catholicisme romain. Voilà, est-ce que vous avez rapidement une ou deux questions à poser ?